Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous voici à nouveau ensemble pour la suite du roman de Jean Vautrin, Un grand pas vers le bon Dieu. Aetius lui-même avait fini par céder à l'appel de la bouteille. Tous les temps en temps, il s'assisait pour regarder la fête. Il se posait sur un chicot, sur un banc, sortait sa musique de bouche, soufflait l'harmonica et donnait la musère avec sa botte. Il se rappelait que le mariage lui avait coûté 10 pots de fouine pour le whisky, 5 pots de rats de bois, 2 pots de bêtes puyantes pour le vin, et 17 écorces ou coquilles ou carapaces de petites tortues coubarrées pour entretenir les musiciens. Ça, plus la promesse écrite d'un baril de patates et d'un sac de farine maïs qu'il avait fallu lâcher à Starbrand, foutu son of a bitch. C'était beaucoup d'argent. Il n'aurait pas dû guimber sur la prochaine récolte. Il s'en voulait, il était saoul à presque tomber sur le parterre. L'Indien Johnny McBrown avait croisé ses bras musculeux où scintillaient 2 anneaux d'or ancrés profonds dans ses chairs. La sagesse des Attakapas lui soufflait que sans doute l'été avait été trop dur avec les assauts de ces 7 ouragans. La mentalité des résidents avait mal résisté aux éclairs, à la foudre. Maintenant que la colère sèche s'était apaisée, transformée en une douce averse alternée de soleil, la peur. Soudain libéré du changement des saisons, courait à la folie sur le platan. Ainsi va les hommes, les femmes de ce pays, dit-il à Mlle Grandois. Quand leurs esprits tourbillonnent et prennent contagion, ils oublient que le principe de toute œuvre, c'est la raison. La jolie Carbo leva les yeux vers Jody. Elle se tenait tendrement appuyée contre lui, arrêtée sur ses jambes par un chagrin mortel. Le chauvage laissa monter un soupir. Le camarade profite d'un ami pour lui ravir sa femme. Il n'a plus de nid. Cède à la grossièreté de ses désirs, il gémit et va à la dérive. « Aie pitié de nous, maître Dieu du monde, » dit la traiteuse des esprits, « et à l'heure de la mort, s'il te plaît, distribue ton héritage. » Elle avait devant les yeux la proximité d'un grand malheur pour elle-même. Quant au curé Toby Lefort, lorsqu'il vit enfin que rien ne pouvait être rattrapé par le verbe, il resta la main levée. Il traversa la route, mit le pied sur le chemin et marcha jusqu'à l'anse du bois où s'avançait la chute du jour. Il regarda les derniers rayons du soleil incendier les halliers de la forêt. Sa main était toujours suspendue en l'air. Il finit par s'agenouiller devant une borne à la limite du champ, tourna le dos à la ripaille, au naufrage, de peur que ses yeux ne voient, que ses oreilles n'entendent, que son cœur ne comprenne qu'il priait dans la nuit. Il s'abîma longtemps dans son affliction. Il égrenait des prières où le chuchotis de ses lèvres faisait mourir le méchant. Mais sa colère n'était pas apaisée. Sa main resta levée. Et lorsqu'il vit s'avancer devant lui un grand spectre lugubre au visage morne, suivi d'un chien famélique, il ne fut pas surpris. Il sut que dans la bosse du cavalier étaient entravées 100 000 petites âmes en proie à de terribles frayeurs. Le cheval ployait sur son fardeau, enfermé par la tenaille des jambes de son maître, comme dans une prison sans verrou. Le chien était de leur dépendance. Aucune lumière du ciel n'aurait eu assez de force pour les éclairer, pas même l'éclat étincelant des premières étoiles. Le cavalier, son regard, mit pied à terre. Il étendit devant lui le pouvoir de ses mains pâles. Au pied d'un fagot, une masse de feu s'alluma d'elle-même. Telle une onde inutile s'écoule, Toby le Fort consumait cette dernière prière. Le bossu lui fit un signe pour l'inviter à venir se chauffer près de lui. Le chien s'était couché contre ses bottes. Tout doucement, dans l'affreux de son pelage taché de boue, la bétaille tremblait. Sous le sombre voile de l'oubli, le vieux homme sentit qu'il tombait à son tour malade d'une peur ridicule. Tandis qu'il s'avançait au-devant de Palestine Northwood, le feu prenait une ardeur nouvelle. Mlle Grandois dansait sur place. Juste, elle faisait bouger ses hanches. Elle sentait le poids tiède de ses propres seins bondissant. Comme des provisions de fruits, ils appuyaient doucement sur son corps un peu las. Ses yeux étaient voilés de tristesse. De loin, elle adressa un sourire à l'Indien, Jody McBrown. Peut-être la regardait-il. Peut-être se trouvait-elle dans son champ de vision. Il était assis sous un arbre. Avec cet Indien-là, vous ne saviez jamais où son esprit le transportait. Mlle Grandois dansait sur place. Elle pensait, tiens, comme ça, que le plus près qu'elle se fût jamais approchée de la mer, c'était en rêve. Elle se mit à sourire. Elle balançait sur place et, un peu, elle tournait sur elle-même. Elle pensait ce serait féroce. Quoi ? Qui vous étonne ? C'est trop vous dire. Au moment où montent les ombres, c'était prévu. Ne pars pas de la musique qui veut. Ce sera féroce. Cette affaire. Le malheur approche. Le malheur va. Il est un écho se répercutant au creux des chemins. Il est un galop, une course invisible. Des cavaliers approchent. Mlle Grandois rêvait à une peau blanche et tendre. En dansant sur place, seulement ses pieds nus bougeaient. Elle pensait « J'ai peur de voir mourir tes enfants ». La peur, en effet, n'est rien d'autre. Au début, à rien, la fête était toujours paisible, ou presque. Les choses allaient simplement un train de routine. Allons dire, la gaieté était belle. À part une batelée de chansons un peu lestes au cours desquelles le gros Macleish avait pas pu s'empêcher de faire des petites remarques amusantes ou comiques sur le croupion en pain perdu d'une petite catin de la clique de la famille Labauve. Chacun trouvait son plaisir dans la musique. Un bon peu de cadjin était pris en ouarlalingue. Un quart de mari avait fini par admettre qu'une fois le soleil se couchait, on distinguait moins la couleur du linge déballé hors des valises. Et le reste de la société giguait avec une grande vigueur dans les jarrets. Les femmes aimaient danser. Même si ça n'était pas la seule façon de se distraire pour beaucoup d'entre elles, c'était une partie de vivre. Pour le reste, un gros mariage était toujours considéré comme une bonne distraction. Combien de fois passé avait-on pas raconté des histoires de macornage à double pirouette, où ça se pratiquait, sans malice, de manger chacun le dessert de son voisin sous les arbres l'été. Les types enlevaient comme ça leur froc, leur ceinturon, couraient après mignotte et revenaient une heure après, plus sages que bigoudi. Et quand arrivait l'automne, pardi, c'était le seul temps de pluie où les gâteaux se mangeaient en intérieur. Ça faisait pas de différence. Cette fois encore, constatons, le fournil, le plancher des charrettes et les balles de paille des granges étaient rendus bien dangereux. Popraquin lui-même, avant de succomber à l'appel du bouteillon, avait dénoncé haut et fort l'usage de la luxure dans certains coins sombres. Un de ses tout derniers avis lucides avait été même de vitupérer contre un glissage de femmes qui redoublait dans le hangar. Les filles à la bauve, pas dernière servie. Juste avant de faire patatras sur son tchu, le vieux bougue avait trouvé le temps de dire que si un bordel aurait venu, il aurait crevé de faim avec la concurrence. Et puis la tronche comme en extase, il s'était signé, il avait fermé ses yeux sur les étoiles. « Merci Seigneur, j'ai bien sommeil. Allons-nous donc faire un bon petit nap ?»« Bon. Mais franchement, c'était guère plus d'une demi-douzaine de couples qui se trompaient de main dans l'obscurité et l'heure était quand même plutôt à l'amusement qu'à la méfiance. » Basel, l'épouse du vieux bougre raquin, s'était remise à danser seule sur le plancher. D'où il était placé, dissimulé derrière un îlot d'arbres, Palestine Northwood, le bossu de Nantucket, avait déplié sa lunette télescopique de marine. Il observait attentivement les gestes ouverts de cette femme inconnue de lui. Le marin glacé percevait sa solitude particulière. Elle était sur une île. Elle avait dénoué ses cheveux. Elle avait décidé de donner un floor show. Elle avait ôté ses chaussures et ses bas seulement. Elle avait pris un verre de bière rempli, l'avait posé sur sa tête. C'était un curieux moment, tout au bout de l'abîme. Basel a commencé à danser toute seule. Elle avait des jambes très blanches dans la lunette de Palestine Northwood. De temps en temps, le verre mouillait dans ses cheveux grisonnants par mèches. Elle poussait des cris amers, des rires sans suite. Elle tapait dans ses mains, elle s'amusait sans joie. Les hommes autour d'elle s'étaient rendus compte de sa détresse. Edius ronflait sous un arbre. Un manque d'amour comme ça est capable de faire mourir, a constaté Cyprien Lamusée en se penchant à l'oreille d'Ambroise Rougaud. « Moun, je crois pas », a répondu le bicheron. Basel envoie des clins d'œil vers la forêt, voilà tout. C'est la preuve, elle a un feeling pour celui qui viendra par le chemin. « Ah, mais pauvre, je crois que tu confonds avec la simplicité des arbres », a rétorqué Lamusée. « C'est une femme, observe le relâchement de son corps. » Elle a tout désarmé. Peut-être après tout. Mais vieux, même avec un abandon, tu ne peux pas faire une cause générale. L'âge de Basel n'assure rien à voir dans l'affaire. Comme pour donner raison à Ambroise Rougaud, le cadien Zacharie Lafleur, qui avec ses 102 ans était le doyen de la paroisse, a commencé à défroisser sa carcasse. Le vieux avait élevé 14 enfants dans son temps, dont 12 étaient en bonne santé. En entendant jouer « Boitrine boiteuse », une vieille ritournelle originaire du Québec, il s'a déplié comme une petite herbe farouche. Avec Basel, ils ont bolé 3 tours sans que le vieux cheval se casse. Zacharie Lafleur est ressorti de l'épreuve épanoui comme une orchidée de boutonnière. Quand l'oxygène est remonté dans ses poumons, il a répété pour lui, pour les boutons de rose à s'ouvrir au printemps, « Ben, mais, si c'est comme ça, j'irai au bal tous les samedis pour essouer mes vieilles griboles. Je crois, Moon, je pourrais danser jusqu'à pas d'heure sans sentir mes douleurs. Je danserai ben jusqu'à 192 ans. » Ça se fait. Basel était mal partie. Elle avait déjà si mal à ses pieds.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Un grand pas vers le bon Dieu, Jean Vautrin. Suite. Mademoiselle Grandois avait un don de double sens. Au bout d'un long moment très sensuel, elle eut l'impression certaine que c'était la dernière fois qu'elle lançait des cailloux dans la mare de ses pensées les plus secrètes. Elle s'était arrêtée de danser. Elle sentait naître en elle une sorte d'accélération. Oh, croyez bien, elle détestait l'idée de devoir lutter contre cette tendance nouvelle à se débarrasser de tout ce qu'elle chérissait le plus. Normalement, il y avait sur cette terre de la place, du temps pour tout le monde. Mais la hâte était en elle. Il était trop tard pour qu'elle s'en corrigeât. Mlle Grandois éprouvait le besoin de faire le tour de ce qu'elle avait apprécié le plus au monde. Elle pensa donc qu'elle avait aimé l'odeur des endroits où elle avait habité, certains objets familiers. La manière dont la lumière les éclaire, la façon dont la lumière éclaire ces odeurs. Elle avait aussi aimé, compliqué comme le travail des abeilles, l'imagination de certaines mains lorsqu'elles avaient glissé entre ses cuisses. Alvéoles et cercles. Cercles et piqûres de feu. Des doigts aux postures infinies qui finissaient toujours par la faire mourir en vol. Au moment de s'ouvrir comme un foulard tempi, elle hurlait le nom de sa mère. Peut-être pour demander une permission. Après qu'elle avait crié sous le poids de son amant, elle sortait du chapeau du prestidigitateur. « Salauds, les hommes !» Après Madras, c'était souvent Blanche Colombe. Elle se redressa. Elle se demanda ce qu'elle aurait répondu si quelqu'un avait surgi à ses côtés, lui avait demandé à brûle-pourpoint « Vous aimez le roi de pique ?» Elle aurait répondu « Oui ». Et si quelqu'un avait ajouté « On couche ensemble ?» Elle aurait répondu « Oui ». C'était l'instinct de sa vie qui parlait. Mlle Grandois avait un don de double sens. La contrôleuse des esprits savait déjà que ce qui se préparait serait féroce. Quoi ? Qui vous révolte ? Qui a dit que le bon Dieu conduit à la justice ? Au banquet des chairs humaines, un vol de vautours se précipite. Le train d'une troupe de chevaux lancés au galop s'approche. Le bruit cadencé des sabots pilote l'éclat des pierres sur le chemin. 30 cavaliers, la bouche chaude et l'écume au creux des reins sont étroitement liés par la chaîne des ténèbres. Plusieurs serrent la babiche de cuir de leur fouet autour de leurs poings noués. Certains en veulent à la nigraille. Ce sont des emplumeurs de noirs venus pour se revenger, des pariens issus de la vigilance, des revolvers pendent à leur ceinture, des fusils sont gainés en travers des arçons. La plupart d'entre eux, on le sent, sont prêts à mettre habit bas pour se battre. Les autres, regroupés autour du shérif Ben Guiné, sont des jeunes députés. Ils ont l'étoile sur la chemise. Mais leur motif est de profiter du cassage de balles pour surprendre le grand bandit Crowley au milieu de la fête. Peut-être l'abattre sans avoir à le défier. L'idée, c'est juste de ramener son corps de bête brute à Bayou-Népiqué, d'entrer en ville en le tirant derrière un cheval. Ses racachas griffant la poussière, son corps empoussié et sanglant, sillonnant un chemin ivre comme celui d'un taureau emporté dans la sueur de l'arène. Et qu'importe la bravoure du geste, qu'importe si le tueur aura fait son shooting en prenant la vie de Crowley par traîtrise en arrière des épaules. Plus tard, les langues se dénouant donneront de toute façon la renommée à celui qui aura accompli ce geste unique. On célébrera le champion, reconnaissant que c'est lui le premier à avoir éteint la lumière, que sa main, son œil, son visé l'homme le plus rapide des quatre comtés et la démarche arrondie, la mine modeste jusqu'à la fin de ses jours, il pourra se pavaner dans la rue avec ses pouces passés aux entournures du gilet. Mais pour le présent, fille du bavard qui se vante en son fort intérieur, du fourbe qui a pour projet d'infliger la mort sans risquer sa propre vie, écorcheurs d'hommes ou faillis chiens, ils sont 30 cavaliers et s'apprêtent à encercler la ferme Raquin. À travers l'œilleton de sa lunette, Palestine balaye le contour de la fête. Il localise farouche ferraille Crowley. Il amène l'optique jusqu'à un point de netteté. Il capte dans la circonférence du verre grossissant son visage énergique, estompé par les branches. Il suit la nouvelle démarche et l'accoutrement de celui qu'il a connu allongé comme un fauve. Amèrement, il constate l'absence de toute arme au long de sa cuisse. Pas même un coutelas emmanché dans la tige de sa bottine et ses cheveux de cirage et ce gilet de faro comme s'il sortait d'une vitrine. Et toujours ce sourire d'extase, ces insoutenables gracieuses manières, ces façons quotidiennes de prêter la main, de cuire les aliments pendant que la dinde à Hermogène fusillé ou les autres ménagères continuent à s'affairer. Plus que tout l'injustice de ces éclats de rire. On se croirait devant une pièce de théâtre. Palestine garde l'œil rivé au verre de sa lunette. Il continue à regarder pousser les êtres comme dans une serre immense. Il inspecte la nuque gracieusement inclinée de la mariée. À contre-jour d'une lampe, il appesantit son regard sur la promesse duveteuse du frisottis de ses cheveux dorés cabriolant sur le col. Elle se tourne vers la lumière. Il s'attarde sur les yeux de la jeune femme. Ils sont très beaux, très bleus. Ce sont ceux d'une personne heureuse. Il déteste l'expression que les femmes peuvent avoir sur le visage. Palestine Northwood pense à Farouche Ferraille Crowley. Il s'adresse à lui. Pour un peu, il ferait 5 000 au galop pour aller gueuler au fond d'un bois. Sauve-toi! Sauve-toi de ce mariage, de cette fin misérable, enfermée dans l'arceau tendre des bras d'une femme. Il lance un coup de pied en direction du chien qui le suit avec son amitié tenace. Il envoie l'animal coucher en hurlant sur le côté. Jugeant qu'il s'est trompé de victime, il reprend le cours de sa harangue intérieure. Il s'adresse à celui qu'il met au rang de la baleine. Il pense, il invective, il subit d'étranges moments et parcourt un rêve éveillé. Une chaloupe l'abandonne sur une terre déserte. Elle s'éloigne sur les flots et viendra le reprendre s'il arrive à convaincre l'autre moitié de lui-même de reprendre le chemin. Le chasseur médite sur le bonheur dévergondé qu'il a sous les yeux. Abomination de l'amour. Il se plie, celui qui ne l'entend pas. Il radote au fond d'un gosier où il faut bien casser la glace. Repars, galope, car mon espoir, c'est toi. J'ai besoin que tu sois invincible, que tu tires plus vite que moi, que ton garion franchisse les défilés, les montagnes et aborde le désert où je perdrai ta trace. Ici, tu n'es plus rien. Je ne me sens plus le pouvoir, l'envie de t'assassiner. Où sont les sentiers du vieux temps, tes desseins meurtriers, ta colère dans tes yeux, vois. Je détourne ma face de la perversité du bonheur qui t'entoure. Vois ce curé qui bredouille d'interminables prières, cette garce qui prend tes lèvres et affaiblit ton esprit de révolte. Vois ce vieillard qui t'a passé les chaînes de la parenté. Vois comme je les hais pour le partage qu'ils se sont fait de toi. Seul l'espoir du malheur le tient éveillé. La chaloupe sort du creux de la vague et vient le rechercher. Il voyage jusqu'à la ferme de Raquin. Curieusement, l'orchestre a commencé à envoyer une nouvelle danse entraînante, la marche du mariage. On l'avait oublié jusqu'alors. La coutume veut, c'est comme ça, que le jeune marié soit tenu à l'écart. Symboliquement, pour une période de plusieurs danses, les hôtes balleurs sont les rois de la jeune épouse. Ils en disposent dans leurs bras. Chacun gigue avec la jeune femme, lui fait faire un petit tour de polka-valse et après, au suivant, le balleur laisse, quand c'est fini, un billet ou deux, 3 piastres dans la coiffe de la mariée. Alors pensez-vous, til a l'air, le gros Macliche a entonné comme une boisson forte. Tu m'as pris dans les bras de mon papa et de ma maman, et tu m'as promis de l'amitié jusqu'au jour de ma mort. Et Alfred Immel, la tête un peu penchée, a ajouté comme il se doit, il y en a qu'à parler, il y en a d'autres qu'à bavarder pour essayer de corser un ménage que nous et vous on aime toujours. Du fait de cette coutume, Farouche Ferraille Crowley s'est trouvé entraîné à l'écart par M. Vakpax et par la femme Israël. L'Alsacien, ses sourcils en friche, la commère askénaze, ses yeux délavés, ont trouvé l'excuse de lui faire connaître quelques histoires hors de la paroisse. Ils l'ont fait s'asseoir tranquillement à la maison, dans la salle. Là, loin du tapage, Madame Israël a dit qu'il était bon de se retrouver entre amis. Elle a commencé à employer son langage de naissance. Elle s'exprimait avec des mots âpres et profonds, tirés du yiddish, un parler haut allemand pratiqué en Europe orientale. Monsieur Vagpask opinait. Par bride, il saisissait des expressions proches de son ancien patois alsacien. Madame Israël avait pris le chat de la maison sur ses genoux. Elle portait un châle à franges sur ses épaules. Ses paupières étaient luisantes d'un fard mauve et ses yeux allongés bougeaient vifs comme des truites arc-en-ciel. Elle évoquait des épisodes nés sur les terres sablonneuses entre Danube et Poutska, des lambeaux de vie hongroise remplis d'îlots de bonheur et de tristesse infinie. La main de Farouche était posée autour d'un verre de Magnan. Par politesse, il gardait l'oreille pendue à ses contes qui chantaient les roues du voyage, la mélancolie de l'exil et le linceul de la mémoire. En même temps, d'une façon irraisonnée, il se sentait nerveux. Ses jambes tressautaient sous la table. Il nourrissait un mauvais pressentiment d'avoir eu à quitter Azeline. Voilà, nous avons terminé pour ce soir donc cet extrait du roman de Jean Vautrin, Un grand pas vers le bon Dieu, que nous retrouverons et terminerons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.